James Graham Ballard. La cage de sable. Au crépuscule, lorsque la clarté vermillon reflétée par les dunes sur tout l'horizon illumina par à coup les façades blanches des hôtels abandonnés, Bridgman s'avança sur son balcon et contempla les longues étendues de sable peu à peu refroidies par la marée d'ombre violette qui s'infiltrait en elles. Lentement, étendant leurs doigts fins dans les cols et les vallons étroits, les ombres s'étalaient comme un gigantesque peigne. Quelques rares éperons phosphorescents d'obsidiennes isolés un instant entre les dents pour enfin se fondre et s'écouler en une seule vague compacte sur les autels à demi ensevelis. Derrière les façades silencieuses, dans les rues ensablées qu'illuminaient jadis bars et restaurants, c'était déjà la nuit. Des halos lunaires emperlaient les réverbères d'une rosée argentée et drapaient les fenêtres aux volets clos et les corniches affaissées comme le givre d'un gaz gelé. Ses bras, maigres et bronzés, appuyés à la balustrade rouillée, Bridgman vit les ultimes volutes de lumière sombrer dans l'éventail cerise qui disparaissait à l'horizon. Et le premier frisson du vent effleura le sable martien mort. Des cyclones miniatures tourbillonnaient près d'un éperon de sable, arrachant des plumes tournoyantes d'embrun teint de lune. Un nimbus de poussière blanche déferla sur les dunes et se déposa dans les creux et les sillons. Les congères de sable s'accumulaient peu à peu, avançant lentement vers l'ancien bord de mer en dessous des hôtels. Les quatre premiers étages étaient déjà ensevelis et le sable n'était plus qu'à une soixantaine de centimètres du balcon de Bridgman. Après la prochaine tempête, il serait de nouveau forcé de déménager à l'étage au-dessus. Bridgman ! La voix trancha l'obscurité comme une épée. À 50 mètres sur sa droite, à la limite d'un brise-sable abandonné que Bridgman avait naguère essayé d'ériger en dessous de l'hôtel, une silhouette trapue en short de coton effrangé lui faisait signe. Le clair de lune soulignait les gros muscles noueux de sa poitrine. Les puissantes jambes arquées plongeaient presque jusqu'aux mollets dans le sable martien meuble. L'homme avait environ 45 ans, et sa chevelure clairsemée était coupée si ras qu'il semblait quasiment chauve. Il tenait dans la main droite un grand fourre-tout en toile. Bridgman sourit pour lui-même. À rester là patiemment en dessous de l'hôtel abandonné, Travis lui rappelait un touriste retardataire arrivant dans un lieu de villégiature fantôme des années après sa fermeture. « Vous venez, Bridgman ?» Comme ce dernier s'appuyait toujours à la balustrade de son balcon, Travis ajouta « La prochaine conjonction est pour demain. » Bridgman secoua la tête et un rictus de contrariété lui tordit la bouche. Il détestait ces conjonctions bimensuelles. Quand les sept capsules spatiales, abandonnées en orbite autour de la Terre, traversaient le ciel toutes ensemble. Invariablement, ces nuits-là, il restait dans sa chambre à se repasser les vieilles bobines de répondeurs qu'il avait récupérées dans les bungalows et les hôtels ensablés tout au long de la plage. Message hystérique.
Ici Mamie Goldberg, 62 955 Cocoa Boulevard. Je suis absolument contre cette évacuation stupide.
Vous résignez. C'est moi, Sam Snead. La Pontiac décapotable dans le garage du fond appartient à quiconque pourra la déterrer.
Travis et Louise Woodward venaient toujours à l'hôtel les nuits de conjonction. C'était le plus haut édifice de la station, doté d'une vue dégagée d'un horizon à l'autre, et regardaient les sept étoiles convergentes qui poursuivaient leur trajectoire sans fin autour du globe. Et ils oubliaient tout le reste. Les gardiens ne le savaient que trop bien et réservaient ces occasions bimensuelles pour leurs fouilles les plus minutieuses de la mer de sable. Immanquablement, Bridgman se voyait contraint de faire le guet pour le couple.
« Je suis sorti la nuit dernière. Évitez la clôture nord-est du périmètre. Ils vont se mettre à réparer la piste, » cria-t-il à Travis.
La plupart des nuits, Travis partageait son temps entre creuser dans les motels enterrés à la recherche de caches à vivre. Les derniers habitants de la zone de villégiature avaient cru que le gouvernement ne tarderait pas à annuler son ordre d'évacuation. Et déconnecter les tronçons de la chaussée métallique installés dans le désert pour les jeeps de surveillance. Chacun des carrés de treillis métalliques mesurait environ 5 mètres de côté et pesait plus de 150 kilos. Quand il avait fait sauter les rangées de rivets et traîné les sections dans le sable pour aller les enterrer dans les dunes, il était épuisé et passait la plus grande partie du jour suivant à soigner ses mains et ses épaules courbaturées. Plusieurs sections de la piste étaient à présent ancrées définitivement par de solides pieux d'acier, et il savait que, tôt ou tard, il ne serait plus possible de retarder les gardiens en sabotant la chaussée. Travis hésita, puis disparut dans les dunes avec un haussement d'épaule peu compromettant, le lourd fourre-tout se balançant au bout de son bras puissant. En dépit du maigre régime qui le soutenait, son énergie et sa détermination ne semblaient pas diminuer. En une seule nuit, Bridgman l'avait vu démonter 20 sections de la piste, puis les enchaîner à celle d'une piste transversale pour créer une déviation, envoyant ainsi tout un convoi de 6 véhicules se perdre dans le désert au sud. Bridgman tourna le dos au balcon, puis s'immobilisa lorsqu'un léger effluve iodé se mêla à l'air frais. À 15 kilomètres de là, caché par les rangées de dunes, se trouvait la mer. Les longs rouleaux verts de l'Atlantique moyen qui venaient se briser contre la rouge grève martienne. Quand il était arrivé sur la plage 5 ans plus tôt, pas la moindre odeur marine ne traversait les kilomètres de sable. Lentement, pourtant, l'Atlantique repoussait le rivage vers ses limites antérieures. L'épaule infatigable du Gulf Stream enfonçait la tendre poussière martienne et amoncelait les dunes en des récifs baroques que le vent emportait vers la mer de sable. Peu à peu, l'océan revenait, recouvrant ses droits sur le grand bassin étal, tamisant le quartz noir et l'obsidienne martienne que nulle brise ne pourrait jamais porter, et les attirant dans ses profondeurs. De plus en plus souvent, une touche de saumure contaminait l'air du soir,
rappelant à Bridgman la raison pour laquelle il était venu sur la plage et lui ôtant tout désir d'en repartir. 3 ans auparavant, il avait tenté de mesurer la vitesse d'approche en enfonçant une série de jalons dans le sable au bord de l'eau, mais les contours fluctuants des dunes déplaçaient les piquets de couleur. Plus tard, utilisant le promontoire à Cap Canaveral, où les vieux ponts roulants et portiques de lancement se dressaient dans le ciel comme les éléments oubliés d'une sculpture gigantesque, il avait calculé, par triangulation, que l'avance n'était que d'un peu plus de 30 mètres par an. À cette allure, il avait fait automatiquement le calcul sans le vouloir, il faudrait au minimum 500 ans pour que l'Atlantique atteigne son littoral antérieur à Cocoa Beach. Bien que décourageant de lenteur, le mouvement n'en allait pas moins de l'avant et Bridgman était heureux de rester dans son hôtel à 15 km de là, derrière les dunes, sacrifiant à cet aboutissement le peu d'années qu'il avait à sa disposition. Plus tard, peu après l'arrivée de Louise Woodward, il avait pensé démonter un des bungalows du motel et se bâtir une maisonnette près du rivage. Mais la grève était trop morne et rébarbative. Les grandes dunes rouges roulaient sur des kilomètres, occultant la moitié du ciel, et se dissolvaient lentement sous l'impact de l'eau verardoise. Il n'y avait pas de laisse de marée définie, mais seulement une pente abrupte, parsemée de nodules de quartz et de fragments rouillés de fusées martiennes ramenées avec le ballast. Il passa quelques jours dans une grotte en dessous d'un imposant récif de sable, à regarder les longues galeries de poussière rouge compactées, s'écrouler et se dissoudre lorsque le froid courant de l'Atlantique les lavait à grande eau, les abattant, telles les colonnes décorées d'une cathédrale baroque. En été, la chaleur se réverbérait sur le sable brûlant comme les scories d'un soleil fondu, calcinant les semelles caoutchoutées de ses bottes, et des éclats épars de quartz lavé scintillaient avec la dureté du diamant. Bridgman avait regagné l'hôtel, heureux de retrouver sa chambre qui dominait les dunes silencieuses. Abandonnant le balcon, la douce odeur de saumure encore dans les narines, il s'approcha de son bureau. Un petit cône de lumière tamisée tombait sur le magnétophone et le classeur de bobines. Le grondement des moteurs à échappement libre des jeeps des gardiens lui donnait toujours au moins 5 minutes de préavis avant leur arrivée. Et il n'aurait pas été dangereux d'installer une autre lampe dans la pièce. Il n'y avait pas de route entre l'hôtel et la mer, et, à une certaine distance, une lumière reflétée sur le balcon était indiscernable de l'auréole de phosphore luisant qui flottait au-dessus du sable comme des myriades de lucioles. Toutefois, Bridgman préférait rester dans un appartement obscur, entouré d'un assortiment de livres sur des rayons de fortune, l'air empli d'ombre caressant ses épaules au long des nuits, tandis qu'il s'amusait avec les messages des répondeurs, fragments d'un passé disparu sans regret. Le jour, il baissait toujours les stores, s'immolant ainsi dans une perpétuelle pénombre.
Bridgman s'était adapté sans peine à son isolement voulu et avait rapidement élaboré un emploi du temps journalier qui lui laissait un maximum de temps pour ses rêveries personnelles. Punaisé au mur autour de lui, s'étalait une série d'immenses plans et dessins architecturaux, montrant plusieurs élévations d'une ville martienne fantastique qu'il avait jadis conçue. Ses flèches de verre et ses murs rideaux s'élevant du désert vermillon comme des joyaux héliotropes. En fait, toute la ville était un vaste joyau où chaque élévation était brillamment visualisée, mais aussi symétrique et, en fin de compte, aussi peu vivante qu'une couronne. Bridgman retouchait continuellement les dessins, insérant de plus en plus de détails, de telle sorte qu'à présent, il ressemblait presque aux photographies d'un original. La plupart des hôtels de la ville, l'une des douzaines de stations balnéaires enterrées sous le sable et qui avait jadis constitué une bande ininterrompue de motels, de bungalows et d'hôtels 5 étoiles à 50 km au sud de Cap Canaveral, étaient bien fournis en conserve, abandonnés sur place quand la zone avait été évacuée et clôturée. Elle ne manquait pas de vastes réservoirs ni de citernes remplies d'eau, sans compter un millier de barres intactes à 6 pieds sous la surface du sable. Travis avait creusé dans une douzaine d'entre eux à la recherche de son bourbon millésimé favori. Se promener dans le désert derrière la ville vous amenait soudain à une courte volée de marches creusées dans le sable recuit qui conduisait à une enseigne obstruée annonçant « The Satellite Bar » ou « The Orbit Room » et, de là, dans le sanctuaire, où le pont en saillie d'un bar chromé avait été vidé jusqu'au miroir à losange chargé de ses rangées de bouteilles et de statuettes. Bridgman aurait préféré qu'on ne les dérange pas. Toutes ces pacotilles de galeries de jeux et de bars vulgaires à la périphérie de la station étaient fondées sur une exploitation déprimante de la conquête de l'espace, la réduisant au niveau d'une parade de monstres dans une foire. À l'extérieur de la chambre, des pas résonnèrent dans le couloir, puis gravirent lentement l'escalier en s'arrêtant quelques secondes à chaque palier. Bridgman laissa retomber la bande qu'il tenait et écouta le bruit familier des pas fatigués. C'était Louise Woodward, grimpant comme chaque soir sur le toit, 10 étages plus haut. Bridgman jeta un coup d'œil au tableau astronomique épinglé au mur. Seuls 2 des satellites seraient visibles, entre 0h25 et 0h35, à une élévation de 62 degrés au sud-ouest, traversant la baleine et l'Éridan, et aucun ne contenait son mari. Bien qu'il y ait encore 2 heures à attendre, elle allait déjà s'installer et resterait là jusqu'à l'aube. Bridgman, le cœur serré, écouta les pas s'éloigner lentement vers les étages supérieurs. toute la nuit cette frêle femme, au visage blanc, allait rester là sous le clair de lune, pendant que le doux sable martien pour lequel son conjoint avait donné sa vie voleterait autour d'elle, dans le vent sombre, effleurant ses cheveux décolorés, comme la femme éplorée d'un marin attendant que la mer lui rende le corps de son mari. Travis la rejoignait d'habitude plus tard, et tous deux s'asseyaient côte à côte, appuyés au château de l'ascenseur, les lettres dépolies de l'enseigne au néon de l'hôtel répandues à leurs pieds, comme les fragments d'un zodiaque démembré. Puis, à l'aurore, ils redescendaient vers les rues emplies d'ombre pour regagner leur aire dans les hôtels proches.
C'était La Cage de Sable, épisode 1.